Tout de suite les titres de ce soir.
On est bien obligé ce soir de se poser cette question. La SNCF est-il aujourd'hui imprudent, dangereux de prendre le train ? Non, nous répond la compagnie, mais le rapport dévoilé par nos confrères du Parisien ce matin sur le gendarme du rail qui a analysé tout le réseau de l'ouest de la France pose bien des questions et bien des incertitudes ici et là, des rails déboulonnés, des fils dénudés dans les stations de la SNCF, victimes des rongeurs qui pullulent. Comment réagir contre cette situation? Que faut-il en penser? 6 ans après le drame de Brétigny qui avait causé la vie à 7 voyageurs, nous serons tout à l'heure à 18h30 avec le président de la Fédération des usagers des transports. Il répondra à nos interrogations et aux vôtres. N'hésitez pas au 39-21. Le Gard en situation de sécheresse exceptionnelle. Nous serons à 18h10 en direct avec une agricultrice du département qui va nous faire vivre ce qu'est cette réalité de la sécheresse. Le Gard qui a été le département le plus touché par les épisodes caniculaires. Il faisait plus de 46 degrés. Le Gard qui a été victime du plus gros incendie de forêt de cet été également. Là également sur la sécheresse, si vous voulez réagir, si vous êtes agriculteur, si vous vous imposez des restrictions d'eau, ce sera le cas dans une centaine de communes du département. N'hésitez pas à nous appeler au 39-21. Nous aurons une petite page football parce qu'on se pose la question ce soir, et si demain le principal adversaire du PSG n'était autre que l'OGC Nice. Oui, le milliardaire Jimmy Ratcliffe, qui a investi et écrasé le monde du cyclisme depuis 10 ans, veut investir dans l'OGC Nice. Il a eu l'autorisation de la concurrence, de la commission de la concurrence aujourd'hui, et nous nous interrogerons donc sur l'avenir de l'OGC Nice avec Jean-François Pérez. Et puis restez bien à l'écoute, parce qu'à 19h10, un événement, deux monstres se rencontrent. Deux monstres, l'un de la littérature, Michel Houellebecq, l'autre du cinéma, Gérard Depardieu. Ils sont à la tête d'un film, très joli film, qui s'appelle Thalasso. Et nous serons à 19h10 avec son réalisateur, Guillaume Niclou. Si vous êtes allé voir aujourd'hui Houellebecq, si vous êtes un fan de Depardieu et que vous voulez réagir, 39-21, car oui, c'est votre grand journal du soir, le grand journal de l'été. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
18h, 20h, votre grand journal du soir avec François Claus sur Europe 1.
Mais comment ne pas commencer par des sourires, des cris, de la joie, ceux de ces quelques milliers d'enfants que le Secours Populaire a emmenés aujourd'hui pour une journée de rêve sur la plage de Deauville. On les appelle les oubliés des vacances. On note que les clivages sociaux ne prennent pas de congé. La dernière étude de l'Institut de la Fondation Jean Jaurès estime que 65% des classes les plus populaires ont dû se priver de congés pour raisons financières. Alors oui, le Secours Populaire, avec des dizaines de bus, est parti de Seine-Saint-Denis ce matin en direction de Deauville. Yasmina Katou était dans l'un de ces bus. Reportage.
Comme un air de vacances, sous le soleil face à la mer bleu marine, Yanis et ses amis déplient vite leurs serviettes. Les enfants foncent pour leur premier plongeon de l'année. Température de l'eau, 18 degrés.
J'arrive même plus à parler tellement elle est glacée.
Une légère brise souffle et accentue l'effet de fraîcheur, ce qui ne déplaît pas à Sloane. L'air iodé bouscule le quotidien de ce jeune de Seine-Saint-Denis.
On habite à Saint-Ouen et la mer elle n'est pas à côté. À Saint-Ouen, il y a juste la piscine municipale. Ça sort de l'ordinaire puisque chez moi. La télé, YouTube et les jeux vidéo.
Donc sans cette journée ?
Ouais, la routine, voilà.
Sur le sable doré, les plus frileux jouent au foot, au volley ou aux raquettes. Nélia, pied dans l'eau, observe la mer et ses fluctuations, les yeux ébahis.
Là-bas, le bleu est plus foncé. Là, il y a le bleu un peu moins foncé. Le sable, il est doux, il est vraiment bien. Et la mer, elle monte un peu parce que tout à l'heure, il y avait plein de cailloux, c'était un peu plus éloigné, donc j'ai remarqué ça.
Nélia espère pouvoir se baigner l'été prochain, mais cette fois avec sa famille. Sur la plage de Deauville, Yasmina Katou, Europe 1.
Il est 18h04, vous écoutez votre grand journal du soir avec François Claus.
Et on va revenir sur cette information griffée Europe 1, une information que vous nous avez révélée ce matin, Guillaume Bié du service police-justice, bonsoir.
Bonsoir.
Nous étions cette nuit sur un tournage de clip en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, un clip du rappeur Booba. Il est un petit peu plus de minuit, nous sommes dans une zone industrielle de Seine-Saint-Denis, et puis soudain, le clip, on aurait pu penser que c'était une scène de film, non, ça devient une réalité, un commando batte de baseball et une arme à feu même, s'attaque à l'équipe du tournage, Guillaume Bier.
Exactement. Booba venait tout juste de quitter les lieux lorsque, vers minuit, 5 voitures ont surgi sur le tournage de son dernier clip sur un terrain désaffecté d'Aulnay-sous-Bois. Une quinzaine de personnes armées voulaient s'en prendre à lui et se sont donc attaquées à son équipe de tournage à coups de batte de baseball et par des tirs d'armes à feu. Bilan, 3 blessés. Un homme de 36 ans touché aux jambes par plusieurs balles. Il a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. 2 autres personnes ont été blessées, dont le réalisateur du clip. À l'arrivée de la police, les agresseurs avaient pris la fuite. Pas d'interpellation. Booba, qui a donc échappé à cette attaque, a publié à la mi-journée une courte vidéo sur un réseau social faisant référence à cette attaque et où il mentionne directement son rival, le rappeur Caris. Vous vous souvenez que les deux hommes et leurs proches se sont violemment affrontés l'été dernier en plein aérogare d'Orly, ce qui leur a valu à chacun une condamnation à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Depuis, ils prétendent qu'ils vont s'affronter publiquement sur un ring en guise de match retour, entre guillemets. Alors, bon, clairement, à ce stade, rien n'indique que Caris soit mêlé à ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais les enquêteurs s'interrogent sur la proximité géographique, puisque Booba et son équipe sont venus tourner juste à côté, à quelques kilomètres à peine de Sevran. Sevran, c'est le fief de Caris. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée.
Et pour vérifier si on est bel et bien dans une logique de guerre des gangs du rap, c'est à confirmer. Merci Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1.
Pour intervenir dans l'émission, n'hésitez pas à nous appeler au standard d'Europe 1, composé de 39-21, 50 centimes d'euros la minute.
Bonsoir Théo.
Bonsoir François.
Vous nous appelez de Rennes, Théo. Je vois que vous avez 25 ans. Vous écoutez du rap.
Oui, relativement, oui.
Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire Booba, Caris?
Il y en a un petit peu marre des extras, disons, parce que là le problème c'est qu'il y a des dommages collatéraux, il y a des gens qui sont blessés par toutes ces histoires. C'est pas la première fois d'ailleurs. Ruff et son équipe, à l'époque où ils étaient en classe avec déjà le clan Booba, était venu tabasser un vendeur dans la boutique Uncut, qui était la marque de Booba. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ça dépasse la musique. Dans le cadre à l'époque, par exemple, du clash avec la Queen, c'était vachement bien. Il y avait des morceaux, il y avait des punchlines. Disons que le clash servait la musique. Aujourd'hui, c'est juste la petite guéguerre et il y a des gens qui risquent leur vie, visiblement.
Alors, on évoque aussi souvent la possibilité et l'utilisation qui serait faite par les clans d'une forme de promotion déguisée en mettant en scène ces affrontements et ces bagarres, aussi violentes soient-elles. Ça vous paraît crédible à vous, Théo ?
Oui, ça serait pas étonnant. Booba est un grand fan de rap américain et de la culture américaine en général, et ça, c'est quelque chose qui s'est déjà fait à plusieurs reprises. Un rappeur, notamment Rick Ross, avait mis en scène des jeunes fusillades pour faire la promotion de son album. Après, en l'occurrence, je pense plutôt qu'on a affaire à une bande de proches de Caris qui sont intervenus sans spécialement lui demander son avis, mais par rancœur envers Booba, parce qu'il aurait clashé leur copain de ce vent.
Oui, et enfin, l'hypothèse est encore évidemment trop tôt pour l'affirmer. Ça va vous inciter à ne plus écouter de rap ou au contraire à aller écouter une autre forme de rap, vous, Théo ?
Non, pas du tout. À la limite, ça va pas changer grand-chose sur ce que je vais consommer comme musique. Mais j'espère que ces rivalités vont servir les morceaux, le rap, le flow et pas dériver dans des guéguerres comme ça dangereuses. Et puis surtout en espérant que le combat se fasse. Parce que ça, à la limite, en termes de guéguerre.
Oui, et de promo, là, pour le coup. Ça serait plus intéressant.
Exactement.
Bah, merci. Ça, on l'attend. Merci pour votre avis, Théo. Et vous avez raison. Ouais, on aime le clash au rap, mais le clash des mots.
Europe 1. Dans un instant, dans votre grand journal, on parlera des restrictions d'eau dans le Gard avec votre invitée Delphine Fernandez, viticultrice près de Nîmes, François. Il est 18h11, c'est votre grand journal du soir avec François Claus. Et François, vous accueillez votre invitée en direct, Delphine Fernandez. Elle est viticultrice dans le Gard et présidente des jeunes agriculteurs du département.
Bonsoir Delphine Fernandez.
Oui, bonsoir.
Merci d'être en direct ce soir sur Europe 1. On voulait avec vous témoigner de ce qu'est la réalité de cette sécheresse dans le Gard. Le préfet a décidé ce matin qu'il s'agissait d'une sécheresse dite exceptionnelle et de placer une centaine de communes, notamment dans le sud du département, en situation de crise hydrologique, dit-on, pour limiter au maximum la consommation d'eau. Vous confirmez, vous, Delphine Fernandez, puisque vous êtes viticultrice dans la région, que le Gard vit une situation très très difficile en ce moment ?
Ah oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu enfin en tout cas pour nous, nos générations, si peu d'eau. Après, c'est vrai que c'est devenu de plus en plus récurrent de pas avoir assez d'eau pendant la saison. Hein. C'est plus tout ce qui a été en conséquence, les incendies, etc., qui sont exceptionnels. La sécheresse, c'est un changement climatique que l'on connaît et on essaye de trouver des solutions pour faire face à celle-ci, quoi.
Et les mesures qui sont prises du côté de la préfecture, elles vous paraissent de bon sens, on va dire, ou pour vous, c'est exagéré ?
Alors, il y a des mesures que la préfecture a prises, notamment en demandant au monde agricole de ne pas broyer, de faire attention quand on utilise des tronçonneuses, etc. Ça, c'est du bon sens, de ne pas le faire pendant des grosses chaleurs. On est les premiers, de toute façon, à ne pas vouloir risquer de mettre feu à nos prairies ou à nos exploitations.
Là, on est dans la prévention incendie, oui. Et en ce qui concerne la consommation d'eau?
Alors, la consommation d'eau, si vous voulez, la grosse problématique de notre département, c'est qu'on n'a pas l'accès à l'eau. Donc, on a besoin de retenues collinaires, etc. Et c'est une vraie problématique. Donc, il y a des parties du département où on a enlevé, restreint l'eau, sauf qu'ils n'ont pas accès à l'eau. Ce qui est une vraie, pour le coup, vraie problématique pour les exploitations.
Par exemple, vous, les conséquences de la situation du moment sur votre propre vigne et sur votre propre activité?
Alors moi, personnellement, j'ai l'accès au Baronne. Donc je peux continuer à mettre du goutte à goutte sur les vignes qui ont accès à l'eau. Après, on a des agriculteurs qui par contre, eux, n'ont plus le droit d'utiliser l'eau du tout, puisqu'ils sont dans ces zones-là. Après, c'est surtout pour l'arboriculture, etc., puisqu'on a pas mal de types d'exploitation qui n'ont plus besoin d'eau actuellement. On a un problème sur la... En fait, si vous voulez, le plus gros... Enfin, un des soucis, c'est aujourd'hui, mais c'est surtout que l'eau n'est pas prévue et que la restriction ne va pas être que pour une semaine.
Bien sûr, surtout qu'on entre dans un épisode, on l'a vu, estival dans les prochains jours. Il y a un vrai débat actuellement en France sur les retenues d'eau. Vous estimez, vous, que vous n'en avez pas assez dans le Gard ou que c'est pas suffisamment organisé?
Ah non, on n'en a pas du tout assez dans le Gard. C'est un gros manque qui se montre aujourd'hui et qui se montrera dans un mois encore, puisque c'est pas prévu qu'on ait d'eau et on en a besoin aujourd'hui, on en a besoin dans un mois, quoi.
Et on a vu les débats qu'il y a, de nombreux écologistes sont opposés à ces barrages. On se souvient évidemment de la bataille autour de Sivens, venant dire que cela encourage une agriculture productiviste. Qu'est-ce que vous leur répondez aux écologistes?
Donc il y a deux poids, deux mesures. Il y a retenue d'eau et retenue d'eau, on va dire, et que c'est pas pour des petits lacs artificiels que l'on peut faire qui vont subir, en plus, enfin, pas qui vont subir, mais qui vont aider à l'alimentation. Parce qu'il faut comprendre que tout ça, c'est pour alimenter les Français.
Oui, c'est
après,
s'ils
veulent qu'on importe la production et qu'on importe des choses qui sont invraisemblables pour nous, et notre culture et notre mode de production, j'ai envie de vous dire, c'est des choix, c'est pas le mien.
Oui, alors cette situation de l'eau, restez bien avec nous, Delphine Fernandez, elle touche aujourd'hui 85 départements sur 95 en France, où il y a des mesures de restriction, elle touche de nombreux secteurs agricoles, pas seulement le Gard, même si le Gard, évidemment, est en tête de liste aujourd'hui des départements touchés. Je vous propose d'écouter le reportage de notre correspondant dans l'Est de la France, Arthur Mbaché, dans le département pourtant plutôt montagneux de cette belle montagne des Vosges, où là, les sapins souffrent également.
Ils ne verront pas Noël 2026, c'est pourtant ce qui a été prévu. 3000 sapins rouges vifs, victimes de la canicule, brûlés cet été dans la parcelle de Fabien Mathieu à Sainte-Marguerite.
Voilà ce que ça donne, les sapins, quand on les sort, mort de chez mort, et quand on voit le craquer, on voit bien qu'à l'intérieur, tout est sec, quoi. Il n'y a plus de verre, il n'y a plus rien, ils sont foutus. Quoi, donc.
Voilà. Il devrait ressembler un peu plus à ça, il devrait être vraiment un vert clair, un petit peu de vert foncé, un peu comme l'herbe d'à côté.
Il y en a un tout seul au milieu du champ là, qui est à peu près vert.
Tous les autres, ils sont complètement brûlés par le soleil. Quoi. En fait, ils sont vraiment tout rouges, rouge-brun, on dirait qu'ils sont rouillés. Quoi. Ici, j'étais venu avec la voiture, il y avait 45 degrés. Quoi. Quand il y a eu le premier épisode de canicule, fin juin, on est venu voir... Les sapins étaient magnifiques. On est revenu une semaine après, on en avait à peu près 25% qui étaient grillés. Trois semaines après, c'est passé à 50%. Puis là, on a 95% de la récolte qui est complètement détruite. Quoi.
Est-ce qu'à cause du réchauffement climatique, vous posez des questions sur la poursuite de votre activité de sapins ici dans les Vosges?
On verra. C'est l'avenir qui nous le dira. Là, pour l'instant, On ne veut pas trop paniquer et puis on va continuer tout doucement, petit bonhomme de chemin. Quoi.
La parade, pour le moment en tout cas, dit le producteur, c'est d'avoir des parcelles différentes les unes des autres. Ces sapins exposés au nord ou sur sol humide ont mieux résisté à la canicule. Sainte-Marguerite, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Delphine Fernandez, j'ai envie de vous poser la même question. Vous posez, vous, des questions sur l'avenir, changer d'activité éventuellement face à ce qui devient maintenant une sécheresse endémique?
Après, nous, comme disait le monsieur dans le reportage, on a eu pareil des brûlures après fin juin, après l'épisode de chaud. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait la deuxième année en 3 ans qu'on vit de la sécheresse. Donc pour les jeunes installés comme moi, je me suis installée en 2015, donc ça me fait déjà 2 épisodes de sécheresse. On se pose des questions, mais aussi sur comment faire évoluer notre culture, notre monde.
Et de s'adapter à ces nouvelles conditions totalement exceptionnelles, et de consommation également, allez vous dire, et vous avez raison. Merci beaucoup Delphine Fernandez d'avoir témoigné ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la présidente des jeunes agriculteurs du département du Gard, qui vit une situation donc de crise hydrologique majeure.
18h-20h, François Claus sur Europe 1.
Et à 18h passé de 18 minutes, voici Diane Chénouda. Bonsoir Diane.
Bonsoir François, bonsoir à tous. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, promet des correctifs à court et moyen terme. Après un rapport alarmant sur les problèmes de maintenance à la SNCF, plus de 400 anomalies de signalisation relevées lors du contrôle de 14 000 km de voies ferrées, la CGT, elle, pointe la responsabilité de l'État et de la SNCF. Des coups de feu tirés lors du tournage d'un clip du rappeur Booba la nuit dernière à Aulnay-sous-Bois. Une vingtaine d'agresseurs ont visé l'équipe de tournage. Booba, lui, était déjà parti. Ils ont ouvert le feu à plusieurs reprises et frappé à coups de batte de baseball. Bilan, 3 blessés dont le réalisateur du clip. L'Amérique durcit sa politique sur les migrants. Les États-Unis vont autoriser la détention illimitée d'enfants migrants. C'est ce qu'annonce la sécurité intérieure américaine. Et puis, Franck Ribéry, accueilli en rockstar à la Fiorentina par les supporters italiens, il a signé pour 2 saisons.
Et pour 10 millions d'euros par an, hein, pas mal pas pour mal. Franck Ribéry. Ouais. Merci Diane Chénouda.
Dans un instant, on abordera notamment l'organisation du sommet du G7 2019 à Biarritz. Il est 18h21 et jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir avec François Claus.
Il règne une drôle d'ambiance du côté de Biarritz. Nous sommes à 2 jours de l'ouverture du sommet du G7 avec les plus grands de ce monde. Un déploiement policier, militaire et gendarmesque absolument exceptionnel. Autant en une ville en 2 jours que pour la France tout entière pendant un week-end de gilets jaunes. 13 200 au total. Et pourtant, ambiance veillée d'armes. On fait toujours du surf pour le moment. Il y a la plage, l'ambiance des vacances. Ça devrait changer dans les heures qui viennent. Notre envoyé spécial au Pays Basque, Jean-Jacques Héry, lui, est allé dans un centre de vacances du côté de Françon, un centre de vacances totalement réquisitionné qui accueille de drôles de vacanciers qui ont troqué le maillot de bain pour le gilet pare-balles. Reportage.
Dès l'arrivée sur le parking, on comprend tout de suite la situation. Ici, pas de break familial, pas de voiture de touriste avec galerie sur le toit, uniquement des fourgons de CRS impeccablement alignés sous les arbres.
Nous, le personnel, ça nous fait bizarre aussi parce qu'on a les voitures calées entre des camions de CRS.
Nathalie Hans est la directrice adjointe du domaine de Françon.
C'est très drôle. Ce qui change, c'est des petites phrases. Moi, d'habitude, ici à l'accueil ou dans le domaine, on entend « Attends-moi, j'ai oublié mes lunettes de soleil !»« Oh, attends-moi, j'ai oublié mon maillot de bain !» Là, hier matin, j'ai entendu « Oh, attends-moi, j'ai oublié mon gilet pare-balles. » Donc forcément, c'est une autre ambiance.
115 CRS sont logés ici cette semaine à 2 ou 3 par appartement en fonction des grades. Lorsqu'ils ne travaillent pas, ils font comme les vacanciers, ils jouent à la belote sur la terrasse. Mais vous ne les entendrez pas abattre leurs cartes, interdiction pour eux de prendre la parole. Il faut donc s'en remettre à Nathalie Cristobal, la chef de cuisine, pour en savoir un peu plus.
Ils sont plutôt souriants, ils n'ont pas de réclamation particulière.
Si je vous demande le menu des CRS aujourd'hui.
Un plat régional, c'est l'achois au piment d'Espelette. Donc c'est du veau haché qu'on servira avec des pommes vapeur.
Ils sont bien lotis quand même.
Ah bah bien sûr, on les nourrit comme tous nos autres clients.
Après tout, l'État a payé le plein tarif pour les loger. Et franchement, nous, on n'est pas perdants, sourit la directrice adjointe. Biarritz, Jean-Jacques Héry, Europe 1.
Et Samuel Etcheveste, qui travaille avec nous au bocal basque, comme il se doit, nous a dit que c'était très très bon ce plat. Donc on attend qu'il nous en fasse aussi, il n'y a pas de raison. C'est la photo de rentrée, très clairement, après un très court de très courtes vacances du côté de Brégançon et au milieu d'une séquence très internationale, puisqu'il y aura la rencontre avec Boris Johnson demain, il y a eu la rencontre avec Poutine, puis le G7, le président de la République, Emmanuel Macron, a tenu à faire sa rentrée sur le plan intérieur pour le premier conseil des ministres de la saison, sa troisième rentrée. Et Jean-Rémy Baudot, vous qui étiez sur place pour Europe 1, vous l'avez constaté, rentrée avec un message très fort, pas question de revivre les fantômes de l'été dernier et de l'affaire Benalla, Jean-Rémy.
Oui François, le mot d'ordre à l'Elysée pour cette rentrée, c'est vigilance et détermination. Pas question d'avoir l'air d'aborder septembre de manière détendue. Lors du Conseil ce matin, le président a notamment invité ses ministres à rester mobilisés. Après le mouvement des Gilets jaunes, tout n'est pas résolu, a-t-il dit, si l'on en croit à la porte-parole du gouvernement. Emmanuel Macron qui a exhorté ses équipes à poursuivre les réformes dans un souci constant du dialogue et de la concertation, a-t-il précisé. C'est la méthode annoncée pour cette deuxième partie du quinquennat à l'Elysée. Comme le soulignait un conseiller, les Français sont toujours impatients. Il faut qu'ils puissent voir des résultats concrets. C'est donc tout l'enjeu de cette rentrée, reprendre les réformes sans braquer le pays. Beaucoup de sujets à venir peuvent créer des troubles dans l'opinion, me confiait ce matin un proche du Premier ministre. Les retraites, la PMA mais aussi l'hôpital, la rentrée pourrait s'annoncer explosive.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. De la politique au sport, parfois c'est très lié. Nous allons retrouver le chef du service des sports d'Europe 1, Jean-François Pérez. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir François.
Qui nous a rejoint dans ce studio. Alors ceux qui aiment le vélo le connaissent très bien. Il écrase le cyclisme et l'aiment bien. Ceux qui aiment le foot vont peut-être le découvrir, vont peut-être l'adorer ou pas. J'ai nommé monsieur Jim Ratcliffe, le milliardaire anglais. On a appris aujourd'hui, Jean-François, que l'autorité de la concurrence validé le projet de reprise d'un club de foot par le groupe de M. Ratcliffe Ineos, qui domine le Tour de France. Voilà Nice qui se retrouve avec un milliardaire à sa tête. Mais le connaissez-vous bien, Jean-François?
Ça, c'est la bonne question. Non, parce qu'il est secret. Alors, il est également et surtout la plus grosse fortune britannique avec un patrimoine estimé à 24 milliards d'euros. Il a 66 ans, ingénieur de formation. Vous l'avez dit, François, il est à la tête d'un groupe chimique qui s'appelle Ineos, basé près de Manchester. Ce nom qui, évidemment, vous dit quelque chose. L'ancienne équipe Sky qui domine le cyclisme mondial. Alors, il faut savoir aussi qu'il s'est paradoxalement prononcé pour le Brexit, malgré ses investissements. Il adore le sport, il a investi au Rwanda, a racheté le club de foot de Lausanne. Ça faisait des mois qu'il s'intéressait à l'OGC Nice, voisine de Monaco, où il a mis toute sa fortune à l'abri. Le dossier de reprise buté sur la méticulosité, on va dire, de l'administration française. Les derniers obstacles sont levés, montant estimé de la reprise 100 millions d'euros. Vous allez entendre le maire de Nice, Christian Estrosi, il était pour la reprise. Joint par Charlotte Moreno, il ne cache pas sa satisfaction.
C'est une opportunité exceptionnelle que d'avoir un homme tel que Jim Ratcliffe qui aujourd'hui décide de prendre en main notre équipe. Je suis convaincu que sur 2-3 saisons, nous nous donnons toutes les chances de pouvoir figurer au plus haut possible du tableau.
Alors Jean-François, question évidemment, qu'est-ce que s'agence pour le GC Nice?
Que les supporters niçois ne grimpent pas tout de suite au rideau. Ratcliffe est un homme d'affaires avisé, il n'a pas inondé de liquidités le FC Lausanne, qui est descendu en deuxième division suisse. Il ne devrait pas attirer Neymar ou Messi à Nice dans un futur proche, mais investir majoritairement sur de jeunes joueurs à fort potentiel, comme c'est la mode aujourd'hui dans le foot. Et par un étonnant jeu de chaises musicales, l'ancien président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, devrait retrouver son poste, de même que son directeur sportif Julien Fournier. Pourront-ils cohabiter avec Patrick Vieira, l'entraîneur niçois, avec qui les relations s'étaient fortement dégradées ces derniers mois? Selon nos informations, le champion du monde 98 n'ira pas au clash et devrait être le premier technicien de l'ère Ratcliffe à l'OGC Nice.
Merci Jean-François Pérez.
Restez avec nous à suivre les prévisions météo de demain, le rappel des titres. Et puis François, vous recevrez votre invité en direct, Bruno Gazot, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, pour parler sécurité ferroviaire.
Doit-on s'inquiéter en montant dans le train après le rapport publié ce matin par nos confrères du Parisien? C'est la question et on attend également votre sentiment à vous, votre point de vue au 39-21. Valérie Darmon, ça se confirme. On pense souvent que le 15 août, c'est la rentrée. Ben non, après le 15 août, c'est souvent l'été qui revient.
Eh oui, c'est le véritable été, pas l'été indien. Et de la région PACA à la Corse, des Hautes-Alpes à la Haute-Corse, plus exactement, le ciel qui sera encore un petit peu nuageux demain. Ensuite, ce sera terminé. Le temps qui sera de plus en plus instable avec des orages qui éclateront en montagne au cours de l'après-midi. Ces orages qui pourraient déborder en fin de journée vers la Côte d'Azur et les Bouches-du-Rhône. Mais le risque est très, très faible. De la Bretagne aux Hauts-de-France, le ciel peut être voilé voilée par des nuages d'altitude inoffensifs, mais l'impression reste très ensoleillée et estivale. De la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est, le soleil brille totalement, mais le vent atténue la sensation de chaleur. Et de l'Occitanie à Auvergne-Rhône-Alpes, sur le bassin parisien, le ciel qui est presque bleu, le ressenti déjà estival dès demain matin. Quand je dis presque, c'est parce que là aussi, il y a des nuages d'altitude. Les minimales entre 6 à Charleville et 22 à Nice, les maximales entre 21 à Cherbourg et 34 à Nîmes.
Avec un peu de fraîcheur, la vue encore à l'est, mais voilà, ça fait du bien de vous entendre. Merci Valérie. 18h passé de 31 minutes sur Europe 1, l'heure du rappel des grands titres de l'actualité de ce mercredi avec vous, Diane Chénouda.
Le Gard en situation de sécheresse exceptionnelle. Une centaine de communes touchées par de sévères restrictions d'eau. Le préfet appelle à la plus grande vigilance face au risque de feux de forêt. Le premier conseil des ministres de la rentrée après 3 semaines de vacances. Emmanuel Macron a appelé les ministres à avoir beaucoup de détermination à mener les réformes. Et sur les retraites, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, souhaite qu'il y ait une concertation avec les Français. La France est prête à accueillir des migrants de l'Ocean Viking, ce navire bloqué en Méditerranée avec plus de 350 migrants depuis 10 jours au large de la Sicile. Paris est donc prêt à recevoir un nombre important de migrants, affirme l'Élysée, qui estime toutefois que le bateau doit être logiquement accueilli à Malte ou alors en Italie. Enfin, le football, Alain Giresse n'est plus sélectionneur de la Tunisie. Il occupait le poste depuis moins d'un an. La Fédération tunisienne de football a mis fin à son contrat à l'amiable sans en préciser les raisons.
Alors qu'il avait fini demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Merci Diane Chénouda.
18h, 20h, votre grand journal du soir avec François Claus sur Europe 1.
Il est 18h32 et c'est votre grand journal du soir avec François Claus.
Et l'heure d'accueillir notre invité, Bruno Gazot, président de la Fédération nationale des usagers des transports. Bonsoir, monsieur Gazot.
Bonsoir.
Merci d'être en direct ce soir sur Europe 1 et on voulait entendre un peu votre avis. La SNCF nous dit ce soir qu'il n'y a pas de risque de sécurité dans les trains, et pourtant nos confrères du Parisien ont publié un rapport qui ne devait pas être public d'ores et déjà, un travail de longues semaines sur tout le réseau dans l'ouest de la France par ceux qui surveillent le réseau ferré, qui ont constaté de nombreuses anomalies, des câbles rongés par les rongeurs et dénudés, des rails déboulonnés. Vous avez, j'imagine, lu l'essentiel de ce rapport. Qu'en pensez-vous, vous, monsieur Gazot?
En première chose, je ne suis pas destinataire de ce rapport qui, comme vous le disiez, n'a pas été diffusé à part des indiscrétions dans la presse. Disons que pour la FNOT, la sécurité, c'est le premier droit des usagers. On a le droit de voyager en toute sécurité sur le ferroviaire. Donc nous sommes extrêmement attentifs à toutes ces questions de sécurité et nous suivons ça, évidemment, quasiment quotidiennement. Pour le reste, ce que je veux dire, c'est que le PSF, l'établissement public de sécurité ferroviaire, est absolument dans son rôle quand il fait des enquêtes et des audits sur le réseau ferroviaire. Il en fait une cinquantaine par an à peu près, donc celui-là est un parmi d'autres. Pour nous, la sécurité a fait l'objet, à la suite de Bretigny, de retours d'expérience très importants. Le ministre Vigalis, à l'époque, réunissait sur le plan qui avait été adopté les acteurs de la sécurité ferroviaire 2 fois par an. Il présidait lui-même la séance, c'est pour dire qu'il prenait ça très au sérieux. Depuis, il a créé le Haut Comité de la Sécurité Ferroviaire, qui lui-même se réunit plusieurs fois par an et qui analyse évidemment tous les rapports qui peuvent être faits par l'établissement de la sécurité ferroviaire, le PSF. Donc les choses sont aujourd'hui bien cadrées. Le partage des compétences est tout à fait clair entre la SNCF qui doit faire son travail de sécurité et le PSF qui examine de l'extérieur la façon dont ce travail est fait, quels sont les écarts, qui met des indicateurs, qui mesure les écarts par rapport à ces indicateurs. Et donc la situation est assez transparente. J'ajoute que au-delà de ces décisions-là, le gouvernement a quand même engagé un plan avec le pacte ferroviaire d'investissement de l'ordre de 36 milliards sur 10 ans. C'est-à-dire 3,6 milliards cette année, soit 4 à 5 fois plus de ce qu'on faisait il y a 10 ans. Et donc, il faut évidemment que ce plan soit activé, que les travaux soient faits. Ça prend toujours un petit peu de temps.
Vous rassurez donc l'ensemble des voyageurs et pour vous, la remise en état, la surveillance du réseau ferroviaire en France, ne porte pas à inquiétude 6 ans après les 7 morts de Bretigny.
Disons, à ce stade, moi, j'exprime pas d'inquiétude particulière. Je pense que le rapport de l'EPSF invite la SNCF à persévérer dans ses efforts, à améliorer tous ses process, à intégrer les nouvelles technologies. les drones, les trains surveilleurs des voies, etc., pour lesquels des efforts de formation doivent évidemment être faits pour que le geste métier nouveau et qui corresponde à ces nouvelles technologies soit acquis par les cheminots. Mais je n'ai pas d'inquiétude particulière. J'observe d'ailleurs que sur la sécurité, le PSF reconnaît lui-même que les indicateurs s'améliorent. Et sur d'autres sujets comme la ponctualité, qui est un sujet qui touche beaucoup les usagers, j'observe là aussi que des efforts sont faits et que la ponctualité des trains s'est améliorée de 4% cette année.
Alors, est-ce que les auditeurs ou est-ce que éventuellement les cheminots qui sont à notre écoute partagent votre avis? On va tout de suite le voir. Au 39-21, nous avons pas mal d'appels. Nous avons Pascal, notamment, qui nous appelle de la belle ville d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir, François.
Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport dont vous avez lu, j'imagine, les meilleures feuilles, notamment dans le quotidien Le Parisien, qui l'a révélé ce matin. Donnez-nous votre point de vue. Parce que vous travaillez à la SNCF, hein. Précisons-le, voilà, je le vois sur votre fiche.
Moi, je suis conducteur des trains de l'infrastructure, donc chez SNCF Réseau, et toutes les nuits, on est en extérieur pour l'entretien du réseau ferré. Ce rapport, j'en prends pas forcément compte, parce que c'est vrai qu'on est mobilisé toutes les nuits, pour changer les traverses, changer les appareils de voie, changer des rails. Les clients ne s'en rendent pas forcément compte, ça peut se faire uniquement la nuit pour éviter de les gêner en journée quand les trains ne roulent pas, mais des fois ils montent dans un TGV le matin, ils montent dans un train, et puis il y a tant de rails qui ont été changés, tant d'appareils de voie, personne ne s'en rend compte. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voies ferrées en France, notamment sur les lignes classiques, où il y a eu, pendant quelques années, ça a été un peu... J'ai envie de laisser un peu de côté, on priorisait le TGV, mais c'est vrai que là, le gouvernement a pris des mesures qui sont fortes, a mis beaucoup d'argent sur la table, et il y a énormément, François, de kilomètres de voies à entretenir.
Alors, évidemment, c'est un travail énorme.
Et voilà, selon les lignes, selon les régions, ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, les cheminots sont là, ils travaillent toutes les nuits, des fois très loin de leur domicile, pour faire en sorte que les usagers puissent monter dans les trains le lendemain matin en toute sécurité. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude. Parce que je vois ce qu'on fait la nuit, et en très peu de temps d'ailleurs, hein, parce que c'est à la dernière circulation du soir, jusqu'à la première du matin, et c'est un travail énorme.
On l'imaginait, et merci Patrick de nous avoir justement appelé au 39-21 pour nous rappeler ce qu'est cette réalité de circuler donc toute la nuit pour surveiller le réseau ferré. Alors à l'autre bout du train, si je puis dire, vous restez toujours avec nous, hein, Monsieur Gazot, nous avons un usager des trains, Patrick, qui nous appelle du département de l'Allier. Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir François.
Votre ressenti à vous, Patrick?
Oui, donc moi, en tant qu'usager, j'ai l'impression que depuis pas mal d'années, on assiste à une dégradation des transports, une dégradation plus généralement, je ne voudrais pas trop élargir le débat, mais enfin des services.
On est sur l'état des lignes là, hein, proprement dit, et du réseau.
Oui, oui, oui. Et donc, oui, alors sur la sécurité, moi je ne remets pas en cause le travail des gens qui entretiennent les voies, hein. Moi je voudrais parler plus de la politique qui est menée sur les transports publics. Moi j'ai l'impression que depuis quelques années, au nom de la rentabilité et du tout TGV aussi, on assiste à une dégradation du réseau, peut-être par absence de moyens humains aussi. Parce que les gens n'ont pas forcément envie de savoir que, puisque j'habite dans l'Allier et dans l'Auvergne, de savoir qu'on va faire Clermont-Paris en 3 heures, bon, c'est très bien, mais les gens voudraient, je pense, davantage de trains de proximité pour aller à 20, 30, 50 kilomètres.
Et sur un réseau, on imagine, bien entretenu et totalement sécurisé. Qu'est-ce que vous répondez, Monsieur Gazot, à Patrick?
Je réponds que c'est vrai que pendant 30 ans ou 40 ans, les gouvernements successifs ont négligé le réseau ferroviaire. L'effort est entrepris maintenant depuis 5 ou 6 ans. Il faudra encore 10 ans pour le remettre à niveau si l'effort se maintient, c'est-à-dire à hauteur d'au moins 3,5 milliards par an et peut-être un peu plus. Après,
Les anomalies constatées donc dans ce rapport sont le fruit finalement de ce retard, si je puis dire, à l'allumage de l'entretien du réseau. Ouais.
Mais moi, je dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais que au moins pour l'instant, on va dans le bon sens, alors que jusqu'à ces dernières années, on allait dans le mauvais sens. Après, sur ce que dit votre usager, c'est vrai que le problème de ce qu'on appelle les petites lignes et le petit réseau capillaire qui dessert les régions en particulier mérite d'être pris en compte. On s'est battu comme des chiens, si j'ose dire, pour dire que les petites lignes, les lignes régionales n'étaient petites que quand on les regardait depuis Paris, mais que localement elles étaient très importantes. Et aujourd'hui, on se bat pour que les régions disposent des moyens pour entretenir ces lignes. parce que pour l'instant...
Et ce sera sûrement le grand dossier des prochaines semaines en matière de transport public. On l'a vu également que c'était une des revendications très clairement sur les ronds-points pendant le mouvement des Gilets jaunes. Merci Bruno Gazot, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés, notamment à Patrick et à Paul qui étaient avec nous.
Europe 1.
Dans la foule des Gilets jaunes, il y a Thierry, un ouvrier. Il appelle les gens à manifester. Il parle d'une petite révolution.
He's not gonna do testing of rockets and nuclear.
Le but de Manchester United.
Europe 1. Rétro d'actu.
Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes.
We kids shouldn't have to do this.
On est assis sur une poudrière parce que les gens, ils ont peur.
François Claus.
C'est l'heure de notre coup d'œil dans le rétro de l'actu. Nous profitons tout au long de ce mois d'août d'avoir un peu de temps pour revivre ce que furent les grands moments de l'actualité de cette saison écoulée et puis de s'interroger aussi, on ne le fait pas suffisamment souvent, que sont-ils devenus ces personnages dont on a parlé à un moment donné, comment cette actualité a évolué. Nous allons partir au mois de novembre dernier. Le lundi 19 novembre dernier, l'arrestation d'un homme qui vient d'atterrir de son jet privé à Tokyo. Cet homme, c'est M. Carlos Ghosn, il est un peu plus de 11h en France, 18h au Japon. Personne ne croit vraiment à cette information, ne comprend ce qui se passe. Nous sommes à l'antenne d'Europe 1, Marion Calais est au micro, nous sommes le 19 novembre.
L'effondrement à la Bourse de Paris de l'action Renault. Plus de 12% de pertes ce matin alors que Nissan a annoncé que le patron du groupe, Carlos Ghosn, allait proposer son départ. Le constructeur japonais qui confirme des dissimulations de revenus au fisc japonais, soupçons de fraude qui ont conduit la justice à demander à Carlos Ghosn de se présenter pour audition à Tokyo. Carlos Ghosn désormais arrêté selon la télé publique japonaise.
Nous sommes donc le lundi 19 novembre, c'est notre ami Marion Calais qui est à l'antenne. Bonsoir Aurélien Fleureau.
Bonsoir François.
Du service économie d'Europe 1, c'est vous qui avez suivi ce feuilleton qu'on va revivre depuis maintenant plus de 6 mois. Aurélien, au départ, on se dit mais c'est une démission, Carlos Ghosn va tout simplement quitter Nissan, il nous faut quelques minutes, tellement on est stupéfait par cette information, pour comprendre qu'il s'agit bel et bien d'une arrestation en bonne et due forme du PDG de Renault-Nissan.
Voilà, le flou change rapidement, on comprend que la situation va très vite se compliquer pour Carlos Ghosn. En fait, ce sont des agents du bureau du procureur du district de Tokyo qui sont montés à bord de son avion sur le tarmac de l'aéroport d'Haneda pour l'arrêter, tout simplement parce que la justice japonaise le soupçonne de ne pas avoir déclaré l'ensemble de ses revenus.
Alors c'est donc la stupeur devant la chute d'un géant. Carlos Ghosn semblait totalement intouchable, sauveur de Nissan. C'est lui qui a consolidé l'alliance avec Renault. Très vite, l'un des premiers feuilletons de cette affaire, ce sera de savoir si Ghosn est coupable ou s'il a été piégé.
Oui, parce que je me suis replongé dans les premiers papiers que nous avons faits à l'antenne, et puis dans les 48 heures qui ont suivi cette arrestation, et dans la presse également. On voit très vite ces interrogations, que s'est-il vraiment passé, pourquoi ça arrive maintenant, parce qu'en fait on lui reproche des faits qui s'étalent sur plusieurs années, ça a même commencé en 2010, et il y a notamment ce papier du Financial Times qui émet pour la première fois cette thèse. C'est le projet de fusion pure et simple ou d'intégration très avancée entre les deux constructeurs qui doit à Ghosn ce traitement de faveur, si l'on peut dire. Côté japonais, l'alliance, oui, mais la fusion, pas question. On ne touche pas au symbole national qu'est Nissan. Alors, sauveur ou pas, eh bien, Carlos Ghosn aurait donc payé ce projet qui devenait de plus en plus concret. Donc, sans forcément parler de complot, de fausses preuves qui auraient été fabriquées, par exemple, eh bien, il y a cette idée que sans ce projet de fusion, personne ne serait allé regarder dans les déclarations fiscales de Carlos Ghosn.
Et c'est à ce moment-là, Aurélien, que débute le deuxième feuilleton qui va nous tenir en haleine, celui des fameuses conditions de détention de Carlos Ghosn. Alors c'est pareil, au départ, c'est un peu flou. Petit à petit, on comprend qu'il est injusticiable, tout simplement comme un autre. Et au Japon, ça veut dire traité de manière plutôt dure. Enfin, c'est ce qu'on ressent, nous, en France.
Oui, le tout-puissant patron n'a aucun traitement de faveur. Il n'a de contact au départ qu'avec des représentants d'ambassade. Alors, il y a un espoir de libération. On est quelques jours avant Noël. Plus d'un mois après son arrestation, il n'a toujours pas pu communiquer avec sa femme, Carole. Et finalement, il n'y aura pas de sortie de prison, mais des conditions qui s'améliorent légèrement, comme l'explique sur notre antenne Régis Arnaud à Tokyo, le 25 décembre, dans un 18-20 que vous présentiez, François.
Au début, il était traité vraiment comme un prisonnier de droit commun.
Là, il semblerait effectivement que ses conditions se soient un peu améliorées. Il a du papier, il peut écrire, il peut lire, et son avocat peut lui passer par la vitre du parloir, par exemple, des lettres de sa famille, par exemple.
Et puis ensuite, il faudra attendre le 8 janvier 2019 pour avoir la première image de Carlos Ghosn depuis son arrestation. Ce sera au tribunal, la première fois que Ghosn pourra essayer de se défendre, un moment que décrit toujours Régis Arnaud à Tokyo, cette fois dans le journal de la mi-journée.
Il est apparu assez amaigri, émacié, il était menotté et attaché par une corde à un de ses gardes, et il a eu à peu près une dizaine de minutes pour présenter sa défense, présenter pour la première fois depuis son incarcération le 19 novembre ses arguments. Il s'est déclaré totalement innocent, il a expliqué que toutes les décisions qu'il avait prises avaient été couvertes par l'entreprise.
Et ensuite, eh bien, ce sera la riposte médiatique de Carlos Ghosn. L'État français vient de le lâcher le 16 janvier pour le remplacer finalement à la tête de Renault. Et lui, il va accorder ses premières interviews, notamment à l'AFP et aux Échos, dont le correspondant à Tokyo, Yann Rousseau, raconte les coulisses sur Europe 1. C'était le 31 janvier.
Oui, et le conseil d'administration est en train de se terminer. Plus de 2 heures de réunion donc pour acter la fin du règne de Carlos Ghosn chez Renault. Son poste a été divisé en deux. Jean-Dominique Senard va prendre la tête du conseil d'administration. Il sera associé à Thierry Bolloré qui devient lui directeur général de Renault. Et c'est donc ici une page majeure qui se tourne après bientôt 15 ans de présidence Ghosn. 2 mois après l'arrestation au Japon de Carlos Ghosn pour des accusations de fraude fiscale.
Et puis la semaine suivante, quelques jours plus tard, fin janvier, nouvel épisode, cette fois ce qu'on peut appeler la riposte médiatique de Carlos Ghosn, avec d'abord une interview dans la presse japonaise, un Ghosn combatif qui dénonce un complot contre lui, monté totalement chez Nissan. Et puis il y a aussi cette interview accordée juste après à l'AFP et aux Échos, dont le correspondant à Tokyo, Yann Rousseau, a raconté les coulisses sur Europe 1. C'était le 31 janvier.
Alors, il est extrêmement combatif, il n'est pas du tout abattu, mais il dit que c'est vrai que c'est difficile, il dit que le plus dur c'est de ne pas voir sa famille. Vous savez que depuis le 19 novembre, il n'a pas parlé avec son épouse Carole et avec ses filles et son fils. Il dit qu'il est face à une armée, il dit qu'il y a des centaines de gens de Nissan qui travaillent sur son dossier, qui fouillent des documents pour essayer de le salir. Il dit que le procureur a une équipe de 70 personnes pour mener l'enquête. Il lui dit, moi je suis tout seul dans ma prison, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de téléphone. Il dit c'est injuste, il dit mais quel pays ferait ça? Laissez-moi, il demande à ce qu'on le laisse sortir en libération sous caution. Mais il dit, pour l'instant ça ne marche pas, mais je vais continuer à me battre. Mais il dit c'est un combat pour l'instant très déséquilibré.
Alors il faudra attendre, Aurélien, le 5 mars pour que cette demande aboutisse. Libération sous caution, quelle caution? 7 900 000 euros.
Oui, liberté ultra encadrée qui ne va durer qu'un mois. Ce sera la seule période pendant laquelle il pourra voir sa femme. Et puis ensuite, 4 avril, nouvelle arrestation, 4e inculpation. Et c'est la première fois qu'on va, malgré tout, pouvoir l'entendre, le voir, parce que quelques jours avant, il a pu enregistrer une vidéo.
Je suis innocent de tous les faits qui me sont reprochés. On parle ici de complot, de conspiration. J'ai été poignardé dans le dos. J'ai beaucoup de respect pour les employés de Nissan. Je parle ici de quelques cadres qui, de manière évidente, ont, dans leur propre intérêt, basé sur des peurs égoïstes, fait beaucoup de mal à l'entreprise. Des gens qui ont vraiment joué des jeux malsains. Et pour finir, je veux dire que mon plus grand souhait est de bénéficier d'un procès juste.
My biggest wish is to have a fair trial.
Et fin avril, Aurélien rebelote, une nouvelle inculpation, une nouvelle libération sous caution, 4 millions d'euros cette fois-ci. Depuis, Carlos Ghosn, eh bien, il est assigné à résidence, mais interdiction de quitter le Japon, interdiction de voir sa femme Carole.
Oui, et fin mai, sa famille a déposé une requête auprès de l'ONU pour dénoncer une persécution judiciaire. Et depuis, eh bien, rien ne bouge. Tout récemment, le 6 août dernier, une 5e demande pour des droits de visite a été rejetée. Carole Ghosn a dénoncé des représailles indignes. Cela fait maintenant 4 mois qu'elle n'a pas vu son mari, dont le procès n'aura pas lieu avant 2020. En tout cas, aucune date n'est fixée pour l'instant.
C'était notre rétro d'actu. Merci beaucoup Aurélien du service économie d'Europe 1. La saga Carlos Ghosn, affaire en cours.
18h-20h, François Claus sur Europe 1.
Et de l'actualité d'hier à celle d'aujourd'hui avec Diane Chenouda.
Des coups de feu tirés en plein tournage d'un clip de Booba la nuit dernière à Aulnay-sous-Bois. Une vingtaine d'agresseurs ont surgi, visant l'équipe de tournage. Booba était déjà parti. Ils ont aussi frappé à coups de batte de baseball. Bilan, 3 blessés, dont le réalisateur du clip. Ils sont 1 sur 3 en France. 1 enfant sur 3 qui ne part pas en vacances. Le Secours Populaire a emmené à la mer 4000 enfants défavorisés d'Île-de-France. Aujourd'hui, sur la plage à Deauville. Le Brexit, la Grande-Bretagne ne peut accepter l'accord actuel avec l'Union européenne, affirme le Premier ministre britannique qui sera reçu demain à Paris par le président Macron. Donald Trump annule sa visite d'État début septembre au Danemark après le refus de Copenhague de vendre son île du Groenland au président américain qui souhaitait l'acheter. La première ministre danoise se dit contrariée, mais il n'y a pas de crise, dit-elle, avec les États-Unis.
Merci Diane Chénouda.
Restez avec nous à suivre dans votre grand journal du soir sur Europe 1, la rubrique Fallait oser, et puis place à l'humour avec le meilleur de Nicolas Canteloup. Europe 1, il est 18h53, l'heure de votre rubrique Fallait oser.
Certains en rêvent, mais certains le font surtout, changer de vie. Eh bien, on va le voir avec Pauline Arnaud-Blanchard ce soir, 34 ans, elle a fait une école de commerce. Quand on fait une école de commerce, on va aller faire du business dans le monde entier, on va monter dans des avions, on va faire de l'argent. Elle, non, elle a décidé de se tourner vers le monde associatif et l'insertion professionnelle avec une structure baptisée Up Entrepreneur, structure dont elle est aujourd'hui la directrice.
C'est à la fois, si vous voulez, un réseau de représentation des dirigeants en situation de handicap ou fragilisés pour raison de santé. Depuis la création de l'association, on en a aidé 300 et on augmente notre capacité à accompagner d'année en année puisque sur la seule année 2018, on en a déjà accompagné 160. Ça passe par évidemment toute une série de programmes d'accompagnement individuel, mais de plus en plus, on va vers des accompagnements collectifs où on mobilise les entreprises, les salariés dans les entreprises qui ont envie d'aider ces entrepreneurs.
Alors, ce choix ne s'est pas fait du jour au lendemain, il y a eu un déclic. Pauline explique que son frère, atteint d'autisme, l'a évidemment très sensibilisé à cette question. Et en fait, elle réalise, une fois qu'elle a franchi le pas, qu'elle a toujours eu envie de se mettre à son service et à leur service. Et à l'arrivée, ça la comble.
Alors, ce qu'il m'apporte au quotidien, c'est d'être... ça peut paraître assez théorique comme ça, mais je le vis vraiment, c'est d'être alignée avec mes valeurs, avec ce dans quoi je crois profondément. C'est aussi le fait de bosser avec des gens assez extraordinaires, des gens qui se dépassent au quotidien dans leur fonction de chef d'entreprise, malgré leur handicap. Et ça, je peux vous dire que c'est assez marquant au quotidien de bosser avec des gens qui sont dans ce dépassement de soi permanent. Donc, je dirais que ça renouvelle à peu près tous les jours l'énergie qu'on peut déployer dans son job.
Alors, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur Pauline Arnaud-Blanchard, allez sur www.h-up.fr, UP, des propos qui étaient recueillis, un témoignage signé Anne Le Gall. Et si on riait un petit peu pour finir cette première heure, et quand on dit rire, on dit Canteloup, et à cette heure-ci, c'est évidemment le best-of avec Julie.
Et on va commencer avec cette triste nouvelle. Hein. Le fondateur des confitures Bonne Maman et des compotes de fruits Andros est mort. On est en duplex de ses funérailles.
Oui, ma chère Julie, bonjour. Bonjour à tous. Je salue toute l'équipe, Ève Roger, Jean-Michel Apathy, Lolo Cabrol, Anissa, Pierre, cher Pierre. Bonjour. C'est Nikos. Je suis aux obsèques d'Andros.
Ah, Andros.
C'est peut-être un grec.
On se connaissait depuis longtemps, les gens. Je me souviens encore comme c'était hier. Nous voyait arriver, ils disaient, tiens, voilà, Nikos. Et... Ah tiens, Pierre, Andros aussi. Nikos et Andros. Je vous demandais juste, je parle doucement parce que le cortège est en train de s'élancer.
Oui, oui, oui.
Tout le monde est là. Il y a Bonne Maman qui est en larmes. Papy Brossard est venu aussi avec Mamie Nova. Merci, grand-mère. Oui, grand-mère est là et elle nous sert à l'instant du café, croyez-moi.
Bon café.
Grand-mère, tout à fait. Pierre le sait, grand-mère sait faire du bon café. Ne pétez pas les vannes avant, Pierre, s'il vous plaît. Merci.
Pierre, ah, Nikos, j'aurais jamais fait ça. Bon alors, Nikos, qu'est-ce qui se passe là?
Écoutez, tout le monde est là. Tout le monde est là. Il est très tôt, là. Il est très tôt au cimetière. Le soleil vient de se lever. Voilà l'ami Ricoré. Avec les potes de Confipote. Et à l'instant, j'aperçois leurs amis gays, Michel et Augustin. Le cercueil est, je dois le dire, magnifique. Monsieur Propre s'en est assuré.
Ah, ouais.
On a un peu chaud dans l'église. Heureusement, il y a Findus. Une cérémonie très émouvante, ma chère
Julie. C'est quoi?
Vous avez compris, la vache qui rit, qui ce matin n'a pas le cœur à rire.
Excellentissime ce best-of que ça fait du bien de réentendre avant de l'entendre à nouveau, bien sûr, sur Europe 1. Tous les matins, notre ami Nicolas Canteloup.
À suivre. À... après le journal de 19h, votre invité, Guillaume Nicloux, le réalisateur de Thalasso, qui sort ce
mercredi. Ah oui, un film qu'il faut aller voir, et on est très heureux de le recevoir, et très heureux à Europe 1 d'être associé à ce film Thalasso, Depardieu ou Houellebecq, vous imaginez l'affiche. Valérie Darmon, en regardant les cartes météorologiques, on se dit que la France, elle est bien située. La France, de l'Oural à l'Atlantique, c'est la grande Europe. Bien, l'anticyclone, il va de là à là, il est au milieu.
Vous avez tout dit, en fait. Vous avez tout dit. C'est exactement ça. On a un vaste anticyclone qui se tire de la Russie au proche Atlantique en passant par la France. C'est à lui que l'on doit le beau temps avec des températures qui continuent leur hausse par rapport à aujourd'hui. Attention néanmoins en montagne, entre les Alpes et le relief Corse, le temps peut virer à l'orage en fin de journée de demain. Les températures encore un petit peu basses entre les terres de la Bretagne et le Nord, mais également vers l'Auvergne, avec des valeurs comprises entre 7 et 10 degrés. Dans le Sud, c'est évidemment mieux, 19 à 23. Et puis au cours de l'après-midi, vous allez gagner 1 à 3 degrés par rapport à aujourd'hui. La chaleur s'impose sur la moitié nord avec 22 à 26. Sur le sud, première journée de forte chaleur et c'est pas la seule, ça va durer jusqu'à dimanche avec 30 à 34 degrés. Dimanche, 35 prévu dans le sud-ouest.
Oui, le corollaire, on en parlait tout à l'heure, la sécheresse dans le Gard aussi, on va de nouveau vers un épisode pas caniculaire mais très chaud et avec des conséquences sur les sols. Merci Valérie Darmon.
Merci d'écouter Europe 1, il est 19h. Et c'est l'heure du journal de Thibault Lambert. Bonjour.
Bonsoir Johanna, bonsoir à tous. Réparation électrique qui traîne, anomalie oubliée par la SNCF. Le rapport de l'EPSF, le gendarme du ferroviaire qui devait rester confidentiel, livre aujourd'hui des conclusions inquiétantes. Résultat d'une enquête sur 14 000 km de voies ferrées entre la Bretagne et l'Occitanie qui souligne des défauts persistants sur le réseau. Les mêmes qui ont pu conduire à la mort de 7 personnes à Brétigny à l'été 2013. Conséquence de décennies de sous-investissement, répond la ministre des Transports Elisabeth Borne qui promet des correctifs sur les problèmes de maintenance. Bruno Poncet, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail, pointe du doigt la politique de la direction.
Aujourd'hui, on se rend compte que toute cette politique qui a été menée par les dirigeants de l'entreprise depuis plus de 20 ans, on est aujourd'hui à avoir un réseau de petites lignes et puis même de lignes usitées tous les jours par des trains du quotidien qui sont au bord de l'asphyxie. Ce qu'on voit surtout, c'est de la sous-traitance à gogo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où il y avait une technicité cheminote, on préfère faire venir des entreprises privées qui viennent des fois même de pays européens, très loin, dans des conditions de travail qui sont quand même assez déplorables, à force de perdre de la qualité, à force de perdre de la technicité. Et bien, ce que vous faites, c'est de la maintenance rapide. Et des fois, oui, c'est des pansements sur des jambes de bois. Et moi, j'ai des collègues qui doivent derrière vérifier le travail qui a été fait par des boîtes privées et qui, des fois, n'est pas à la hauteur de ce qui est demandé. Mais comme il y a des urgences, il y a des créneaux, il y a tout ça, on force un peu le passage pour que les voies soient remises en service. Donc, c'est un vrai souci.
Bruno Poncet du syndicat Sudrail qui répondait à Aurélien Fleureau. Le Gard, touché par une sécheresse exceptionnelle, 97 communes sont en situation de crise hydraulique. L'usage de l'eau strictement limité aux besoins vitaux et à la propreté. Les températures élevées jusqu'à 46 degrés pendant les fortes chaleurs et le manque de pluie ont rendu le sol hautement inflammable. À Congény, commune en crise, le maire Michel Fabrère redoute de nouveaux incendies.
La canicule est arrivée assez tardivement cette année. Elle a été très forte d'un coup. On a aussi des journées où il y a du mistral qui augmente le risque de propagation du feu. Le département a été frappé déjà sévèrement à Générac, puisque je crois qu'il y a eu près de 1000 hectares de forêt qui sont partis en fumée. On est un petit peu inquiet dans cette période justement de grande sécheresse. Ce qui inquiète tout le monde, c'est la répétition maintenant de ces épisodes de très grosse chaleur. On informe la population des mesures de restriction qui sont mises en place par la préfecture. C'est compliqué d'aller voir si quelqu'un remplit sa piscine. Par rapport à tout ce qu'on nous demande, on n'a pas les moyens justement de contrôler.
Le maire de Congény avec Sophie Echen, au total 85 départements sont concernés par des mesures de restriction d'eau. Quatre forces majeures, 9 d'entre eux viennent aujourd'hui de s'ajouter à la longue liste des territoires autorisés à faucher les jachères pour nourrir les élevages. Premier conseil des ministres ce matin et première mise en garde. Emmanuel Macron a demandé aux membres du gouvernement la plus grande vigilance, bien conscient qu'un été ne suffit pas à effacer plus de 6 mois de contestation par les gilets jaunes. Le président qui est également revenu sur les cas de violence cet été, rapporte la porte-parole. La mort de l'édile de Signes ou encore les permanences de députés en marche dégradées. Nouvelle illustration, pas plus tard qu'hier, avec cette agression violente d'un élu dans le Nord. Le maire de Main, au sud de Valenciennes, victime d'une attaque
attaque à la tronçonneuse en plein jour. Il s'était interposé pour empêcher l'installation sauvage de gens du voyage, Lionel Gougelot.
Philippe Baudrin est intervenu au moment où, pour pénétrer sur le terrain de football de la commune, les gens du voyage avaient commencé à scier des plots de bois à la tronçonneuse.
N'obéissant pas, étant seul, je le prends par l'épaule pour le reculer. Il m'envoie un point immédiatement dans le visage. Il retronçonne mon plot, je le reprends par l'épaule pour le stopper dans ses dégradations. Une furie arrive par derrière, me met une gifle. Vraiment, la gifle m'a fait plus mal parce qu'elle a pris de la vitesse et elle a pris de la hauteur pour me claquer en arrivant dans le dos. Là, j'ai vu les étoiles. J'ai recommencé à nouveau pour retirer le gars qui tronçonnait. Et là, elle a brandi sa tronçonneuse comme une arme. C'est pas autrement. Il m'a menacé avec la tronçonneuse en marche. Et j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur.
Les deux agresseurs sont interpellés, placés en garde à vue et les caravanes évacuées du terrain de football. Mais parmi les élus de la commune, le traumatisme est profond. Corinne Collet, première adjointe.
Après, on s'étonne qu'il n'y ait plus d'élus qui veulent se présenter, que les maires démissionnent et qu'il n'y ait plus des conseils municipaux. Moi, j'ai une petite fille de 10 ans, j'ai pas envie qu'elle se retrouve orpheline pour des histoires communales, quoi.
Et le pire, confie l'élu, c'est qu'au moment de l'agression, devant plusieurs témoins, personne dans le quartier n'a levé le petit doigt pour venir en aide au maire, sans doute par peur de représailles. À main près de Valenciennes, Lionel Gougelot, Europe 1.
Europe 1 vous le révélait ce matin, cette fusillade la nuit dernière sur le tournage d'un clip de Booba à Aulnay-sous-Bois. La star qui n'était pas présente, mais trois personnes ont été blessées, dont une touchée par balle. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête un an après la bagarre entre le rappeur et son ennemi Caris à l'aéroport d'Orly. On l'appelle déjà Il Fenomeno, le phénomène chez nos voisins italiens. À 36 ans, Franck Ribéry n'est visiblement pas décidé à raccrocher les crampons. Voilà que l'ex-figure du Bayern de Munich, libéré de tout contrat, signe pour 2 ans à la Fiorentina. Bonsoir Marie-Guida.
Bonsoir.
L'ancien bleu accueilli en superstar à l'aéroport de Florence cet après-midi.
Absolument, polo violet sur les épaules, écharpe aux couleurs de son nouveau club, Franck Ribéry a été accueilli à l'aéroport par des dizaines de tifosi déjà conquis. Le joueur de 36 ans en a profité pour signer quelques autographes, mais surtout prononcer ses premiers mots en italien plutôt fluides.
No, io ho detto già parlato già una settimana con la personne della Fiorentina.
Il dit j'ai parlé avec la Fiorentina pendant une semaine, un grand club et en plus la vie est belle. Un Italien qui l'aurait appris aux côtés du préparateur physique du Bayern Munich. Alors l'ancien Marseillais aurait pu opter pour une retraite paisible ou un championnat mineur, mais c'est mal connaître Kaiser Franck comme on le surnomme. Il a choisi le challenge dans une équipe en difficulté ces dernières années, mais qui reste historique en Italie. Un club ambitieux également, à l'image de son nouveau président, le fantasque homme d'affaires italo-américain Rocco Commisso, qui espère retrouver l'Europe dès la saison prochaine. Franck Ribéry sera présenté demain en fin d'après-midi. Il pourrait déjà être convoqué par son entraîneur Vincenzo Montella pour le premier match du championnat, samedi, à domicile contre Naples.
Marie Guida, l'actu foot, c'est aussi le feu vert de l'autorité de la concurrence pour le rachat de l'OGC Nice, le club convoité par le groupe pétrochimique anglais Ineos, déjà propriétaire du FC Lausanne et de l'équipe Sky qui a remporté le Tour de France 2019. Valérie Darmon, la météo des plages et pour une fois, soleil partout sauf sur le pourtour méditerranéen.
Effectivement, sauf sur l'est du pourtour méditerranéen. Depuis Nice jusque sur Marseille, vous essuierez des orages demain après-midi en fin de journée avec des valeurs entre 29 et 31. Soleil du côté du Cap d'Agde, encore du Canet et puis une eau calme entre 22 en Roussillon et 27 dans les Alpes-Maritimes. Retour du très beau temps depuis aujourd'hui déjà, hein, le long de la Manche avec des valeurs toujours aux alentours de 21, 22 degrés, 23 à Deauville, 23 à Étretat, 21 à Dieppe, 26 tout de même à Saint-Malo, ces températures qui commencent à remonter sérieusement. Une eau toujours aussi calme entre 18 et 20 degrés. Très beau temps sur l'arc atlantique avec des valeurs en hausse là aussi. 26 à Biarritz demain après-midi, à Mimizan, 28 dans les Landes, par exemple à Lacanau, 28 à La Rochelle, 27 au Sable. Un océan calme entre 18 et 22 degrés.
Merci Valérie Darmon.
Et merci Thibault Lambert. Dans un instant, François, vous recevrez Guillaume Niclou, le réalisateur du film Thalasso qui sort ce mercredi, dans lequel deux pointures se confrontent. Michel Houellebecq.
On va enfiler le peignoir, on va manger des carottes Vichy, on va partir avec Depardieu et Houellebecq en Thalasso à Cabourg. Vous voyez un peu le voyage.
Le luxe. Et c'est la suite de votre grand journal et vous recevez donc votre invité.
Quand un monstre de la littérature rencontre un monstre du cinéma, Michel Houellebecq face à Gérard Depardieu, c'est la formidable affiche qui est apparue sur vos cinémas aujourd'hui en France. Ça s'appelle Thalasso, et c'est réalisé par Guillaume Niclou. Nous sommes fiers à Europe 1 d'être associés à ce film. Bonsoir Guillaume Niclou.
Bonsoir.
Film et objet filmique totalement unique, inédit. Vous aviez réalisé L'Enlèvement de Michel Houellebecq. Vous avez décidé de faire de Houellebecq un personnage de cinéma et de le suivre. Racontez-nous un peu comment s'est opéré cette idée, puis sa réalisation.
J'ai eu une première expérience avec Michel lorsque j'ai réalisé l'affaire. Je lui avais proposé, là pour le coup, d'endosser un personnage qui était le patron de la DST. Et à la suite de cette première rencontre, expérience ensemble, j'ai très rapidement eu envie de m'intéresser à la personne Michel Houellebecq et non plus à l'écrivain. Cette idée a très vite germé et a donné naissance à L'Enlèvement de Michel Houellebecq, qui est une sorte de faux documentaire dans lequel Michel joue son propre rôle. Ce sont des films très particuliers, assez atypiques, dans la mesure où Michel interprète son propre rôle, ce qui lui permet finalement, avec cet alibi fictionnel, de réagir comme il réagirait dans la vie à des événements qui ne sont pas réels. Donc c'est l'intrusion de la vérité dans un film de fiction.
Ce qui est assez étonnant, c'est que Houellebecq est extrêmement pudique, il refuse les interviews, il n'aime pas parler de lui. Vous avez réussi à le convaincre à incarner un personnage très public, à être une star sur l'écran.
Bah, c'est cet étrange rapport qui peut lier des personnes qui se font confiance, parce que ce sont des films qui ne sont basés comme point de départ que sur la confiance. C'est-à-dire que sans la participation totale à la fois de Michel Houellebecq et de Gérard Depardieu, ce film ne peut pas exister en fait. Mmh. Il faut qu'il y ait cette confiance qui me permette de leur demander finalement tout ce que je veux, tout ce que je souhaite, avec leur accord que ce film-là peut exister. Alors, c'est parce qu'ils me font confiance et parce qu'ils peuvent à un moment donné s'oublier à l'intérieur d'une péripétie qui est là pour le coup une comédie.
Alors hilarante dans les 20 premières minutes. Allez, on va se faire un petit plaisir. Alors moi, quand j'écoute la radio, je n'aime pas du tout qu'on me parle du film que je vais aller voir parce que je veux être surpris. Donc si vous voulez être surpris par le film, allez, vous baissez le son légèrement, mais vous allez vite revenir après parce qu'il y a encore beaucoup de choses à nous dire. Guillaume Niclou, ça dure 56 secondes. C'est un de ces morceaux de bravoure du film. Imaginez Michel Houellebecq et Gérard Depardieu en peignoir devant un buisson en train de fumer une cigarette, car il est totalement interdit de fumer, évidemment, dans ce centre de Thalasso, et ils dialoguent.
T'as vu un toubib, tes machins, pour voir ce dont t'as besoin?
Non, que dalle.
Ben, faut surtout pas faire si t'as pas vu de toubib.
T'as fait
Griot?
Ouais.
Faut que tu vois un toubib. Ils sont complètement cons, ils devraient te le dire. C'est hyper dangereux, surtout que t'es pas épais, toi.
Oui.
T'es pas épais, tu peux geler. Ton os peut geler.
Parce qu'il y a
des... Ben tiens, l'os, tu le sens pas tout de suite. Les couilles, c'est pareil.
Ça, ma femme m'a demandé pour la bite. Ouais.
Mais ils connaissent rien. C'est des mecs qui sont au chômage, qui viennent là, qui prennent 2-3 cours de formation, et puis qui te brûlent la bite.
Et vraiment, il y a un mec qui a perdu sa bite.
Il y a un mec qui a perdu sa bite. Il n'a pas senti geler. Parce que c'est
en France ?
En France, oui.
Que moi, il m'a dit qu'il y en avait eu un au début, en Pologne, maintenant...
Mais il y en a en France, simplement, ils ne vont pas te le dire. Parce que tu viens là, ils ne vont pas te dire qu'en France, les mecs qui font de la cryo, ils sont mauvais.
En l'écoutant, on en rit encore, et vous également. Ces moments-là, Guillaume Niclou, ils sont écrits tels quels, ou vous avez laissé une place à une forme d'improvisation entre les deux?
C'est un dispositif, c'est-à-dire qu'il y a un document écrit, il y a un scénario, et ensuite les informations que je donne à chacun d'entre eux, sans forcément les avertir, il y a ensuite les informations que je donne pendant le tournage, et puis il y a ensuite les accidents heureux, les continuations de séquences, les envolées lyriques et les saillies verbales. Donc c'est le mélange de toutes ces sources d'influence qui crée ces instants de vérité, j'espère de spontanéité en tout cas, puisque aucune prise n'est reproduite plusieurs fois, on est dans l'instant unique, et c'est cette tentative de capter ces moments de vérité entre ces deux hommes assez exceptionnels qui sont encore les deux fers de lance d'une parole assez libre en France.
Absolument, et on ressent cette spontanéité. Il y a un gros effort de mise en image, la manière dont vous filmez la Thalasso, c'est une espèce de quasi-dictature glaciale qui peut renvoyer d'ailleurs au roman de Houellebecq lui-même. Alors nous avons au 39-21, restez bien avec nous, Guillaume Niclou, un auditeur d'Europe 1 qui est allé voir le film dès ce matin. Bonsoir Paul.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Nîmes. Nous étions à Nîmes il y a quelques instants sur l'antenne pour évoquer la terrible sécheresse de votre région. Vous êtes allé au frais et immédiatement allé voir ce film. Vous l'attendiez, vous vouliez le voir?
Oui, je voulais le voir en tant que fidèle lecteur de Michel Houellebecq. Et ce film m'a agréablement surpris parce que confronté à ce monstre sacré du cinéma de Depardieu, Michel Houellebecq est un personnage à part entière et prend même l'ascendant sur ce dernier à travers le film. D'autant plus qu'on découvre une nouvelle facette de Michel Houellebecq, qui est sa spiritualité. Et c'est une facette du personnage qui est très intéressante, qui, je pense, va supplanter l'intrigue du film et s'insérer à travers toutes les scènes. Et Michel Houellebecq, voilà, qui croit en la réincarnation des corps, en la résurrection, et qui en fait de lui un personnage très touchant dans ce film.
Et l'univers de Houellebecq ressort lui-même, et j'allais dire même pratiquement à contre-emploi Guillaume Niclou, lui qui est l'homme de la littérature sans désir, du monde en train de mourir. Vous en faites un personnage qui souffre justement des désirs qu'on lui interdit d'assumer.
Oui, mais c'est finalement le grand paradoxe du caractère humain, c'est de pouvoir à un moment donné délivrer une facette de nous-mêmes qui est assez inattendue, qui passe par le biais de l'émotion, tout en restant encore une fois dans un cadre qui est celui de la comédie, de la détente, mais qui n'exclut pas en même temps la réflexion, l'émotion et puis la découverte de personnes qui nous livrent une facette d'eux-mêmes plus inattendue, plus inconnue.
On imagine ce qu'était le hors-plateau entre les deux. C'était presque un autre film, j'imagine, entre Depardieu et Houellebecq.
En fait, il n'y a jamais de hors-plateau. Parce que sur ce type de film, je filme tout le temps. Il y a 4 caméras en permanence, donc les participants oublient très vite la caméra. Et moi, je suis confronté à une véritable douleur au moment du montage, c'est que je suis obligé de faire un film qui ne dure qu'une heure et demie, alors que je dispose d'un matériel, évidemment, qui me permettrait de faire une saga et de faire une série de plusieurs heures. C'est en même temps une grande frustration, mais c'est en même temps un grand plaisir d'assembler, de rassembler la quintessence de cette rencontre, en fait.
En tout cas, merci à vous de l'avoir ainsi mis en image. Alors que vous aimiez Houellebecq comme Paul qui nous a appelé de Nîmes ou Depardieu, allez-y parce que là vous vous y retrouverez. Et si ce n'est pas le cas, allez-y quand même parce que vous allez être très surpris. C'est Thalasso qui sort aujourd'hui en salle, signé Guillaume Niclou.
Dans un tout petit instant, on retrouve notre saga de l'été consacrée au festival de Woodstock, l'un des meilleurs épisodes ce soir, François.
Eh oui, parce qu'on a fini les 15 épisodes là, avec Hendrix vendredi, mais c'est tellement bien, on a décidé d'en refaire. Et là, c'est une conscience qui va rentrer sur scène, plus qu'une musicienne.
Europe 1.
Kill a man. You know, I'm a human being and that's all I want to be.
Il y a 50 ans, la révolution Woodstock.
Just feel the energy. Jean-François Pérez.
François Claus.
La saga Woodstock, c'était il y a 50 ans, jour pour jour. Vous l'avez vécu avec Jean-François Pérez tout au long de l'été en 15 épisodes. C'était tellement bien cette série qu'au-delà du podcast, qu'au-delà d'Europe1.fr, nous avons décidé avec Cyril Pascal, le réalisateur, de vous rediffuser au cours de cette dernière semaine une forme de best-of. Les grands moments musicaux, ceux qu'on a peut-être un peu trop vite oubliés comme Tim Hardin hier, les moments qui ont marqué une génération, il était impossible de ne pas revenir ce soir sur cette femme, Jean-François Pérez, qui est beaucoup plus qu'une simple chanteuse.
Eh bien, ni plus ni moins que la conscience d'une génération. Depuis le début des années 60, avec sa voix de cristal et ses engagements courageux, elle incarne plus que tout autre la révolte de la jeunesse américaine. Nous sommes dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 août 1969, il est 1h du matin, enceinte de 6 mois, mais toujours aussi décidée à faire passer ses messages. Elle reprend un hommage à un syndicaliste du début du XXe siècle, injustement condamné à mort. Il s'appelait Joe Hill, elle s'appelle Joan Baez.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you. Joe, I didn't die.
and standing there as big as life and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill, went on.
François John Baez à Woodstock est alors au sommet de sa gloire, même si elle n'a que 28 ans, mais John Baez, elle a plusieurs vies.
Ouais, il faut d'abord dire qu'elle a grandi dans une famille très religieuse. Son père est un pasteur mexicain, physicien de renom, co-inventeur du microscope à rayons X, mais oui. Sa mère est une fille de prêtre écossais anglican. Convictions spirituelles donc, mais aussi politiques. Le papa refuse d'être associé à la conception de la bombe atomique. La famille voyage au gré de ses travaux aux États-Unis, mais aussi en France, en Suisse, en Italie, en Irak. C'est là, à Bagdad, que la petite Joanne voit de ses propres yeux la misère des enfants des rues. Elle en restera marquée à vie. À 16 ans, de retour aux États-Unis, premier acte de rébellion au système, elle refuse de participer dans son lycée à un exercice d'alerte atomique. On la taxe de communiste infiltrée. Cela ne fait que renforcer ses convictions. Armée d'un premier album dès l'âge de 19 ans, sûre d'elle-même et de son charme, elle devient rapidement une figure de la lutte contre la guerre au Vietnam. Elle sympathise avec Martin Luther King, marche pour les droits civiques des Noirs à Washington, n'hésite pas à porter sa parole en Alabama chez les ségrégationnistes et même au Vietnam. Elle fera même un mois de prison pour avoir bloqué un centre de recrutement de l'armée. Son mari, David Harris, écrivain antimilitariste, déserteur de l'armée, y passera, lui, plus d'un an. Il est en pleine grève de la faim quand John Baez monte sur la scène de Woodstock. Elle lui écrit et lui dédie un album, puis une chanson, Song for David.
In my heart I will wait by the stony gate, and the little one in my arms will sleep. Every rising of the moon makes the years grow late, and the love in our
dans mon cœur, j'attendrai devant la porte de pierre. C'est le Song for David. David Harris n'a pas été, loin s'en faut, Jean-François Pérez, le seul homme dans la vie de John Baez.
Absolument. D'ailleurs, après Woodstock, le couple va se séparer. En fait, l'histoire a davantage tendance à retenir la relation passionnelle et orageuse que la chanteuse a entretenue et entretient encore, d'une certaine manière, avec Bob Dylan. C'est elle qui l'a repéré dans le Greenwich Village et lancé à ses côtés sur scène. Elle n'aimait pas son arrogance, beaucoup plus ses chansons. Ce couple princier de la folk, si on peut dire, se séparera quasiment sous les yeux de la caméra d'Arthur Penbaker dans le documentaire Bringing It All Back Home, où le rapport de force et de célébrité s'est inversé. Dans une vidéo que je vous conseille chaleureusement, on voit d'ailleurs John Baez imiter la voix de Bob Dylan à la perfection. C'est là qu'on s'aperçoit qu'elle peut être également très drôle. En 1975, elle consacre à leur histoire d'amour une mélodie aussi magnifique que désenchantée. À l'heure du bilan, que reste-t-il ? Des diamants et de la rouille. Diamonds and Rust.
Mmh.
again, but that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. Diamonds and rust.
Diamants et rouille, on pourrait dire, Jean-François, que c'est l'histoire de Bob Dylan et de John Baez qui se synthétise dans cette phrase. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il y a eu encore un autre homme.
Ah oui, un certain Steve Jobs. Au début des années 80, le jeune cofondateur d'Apple file le parfait amour avec John Baez. Il l'aurait même demandé en mariage, mais il veut fonder une famille, avoir des enfants. Elle n'est manifestement pas sur la même longueur d'onde et le couple se sépare. Au même moment ou presque, devant 25 000 personnes réunies sur le parvis, John Baez fait résonner les cloches de Notre-Dame de Paris au son de Blowing in the Wind, la fameuse chanson anti-guerre de Bob Dylan. Et oui, on y revient toujours. À bientôt 80 ans, celle qui n'aura jamais voulu renier ni ses idées, ni ses origines. On termine avec une tournée d'adieu. Vous l'avez peut-être vu cet été en France, dans les festivals. « Ma voix décline », explique-t-elle dans un excellent français, mais ses idées pacifistes et écologistes ne sont pas près de s'éteindre.
Et pour ceux qui seraient passionnés par cette rencontre entre Bob Dylan et John Baez qu'on évoquait à l'instant avec Jean-François Pérez, vous pouvez aller sur Netflix voir le magnifique Rolling Thunder Review 1961, la tournée de Dylan et de John Baez, filmée et racontée par un certain Martin Scorsese, dont la vie de réalisateur a commencé lorsqu'il était assistant réalisateur à Woodstock.
Et de Woodstock en 69 au festival d'aujourd'hui. Dans une poignée de secondes, on prend la direction d'Aurillac sur notre route des festivals. Restez avec nous. Et nous reprenons cette route des festivals vers Aurillac, François.
Et oui, Johanna, nous reprenons cette route des festivals. Nous étions à Guéret hier et nous allons aller un peu plus au sud, vers le très beau département du Cantal et vers la ville d'Aurillac. Quand on dit théâtre, on répond Avignon. Quand on dit art lyrique, on dit orange. Quand on dit rock, on pense à Carré et aux Vieilles Charrues. Quand on dit théâtre de rue, on dit Aurillac. C'est un rendez-vous incontournable de la fin de l'été qui a débuté aujourd'hui même à 12h30. C'est une tradition et qui va s'étaler tout au long du week-end pour vivre, comprendre le théâtre de rue. Il y a à la fois un festival in avec 20 compagnies invitées, un festival off avec quelques 600 spectacles et la ville d'Aurillac se transforme en gigantesque fête de rue, la fête de la parole, la fête de la musique. Et je suis heureux d'accueillir ce soir sur Europe 1 le directeur du festival d'Aurillac, Frédéric Rémy. Bonsoir.
Bonsoir.
Le coup d'envoi a donc été donné tout à l'heure, comme c'est de tradition, sur la place de l'hôtel de ville d'Aurillac. Racontez-nous un petit peu l'atmosphère, l'ambiance.
Il y a une ambiance extrêmement joyeuse et un peu frénétique. Toutes les compagnies étaient impatientes de montrer leur création à un public toujours aussi nombreux et frénétique. Et là, on part pour 4 jours vraiment d'aventure artistique sur le territoire d'Aurillac, où on va vivre des choses assez extraordinaires et d'une très très grande diversité.
Alors, expliquez-nous ce théâtre de rue. Ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas du cirque, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas ça, et c'est à la fois tout ça.
C'est ça. En définitive, les artistes qui se revendiquent du théâtre de rue ou qu'ils côtoient, parce qu'il y a des artistes qui viennent à la fois du plateau, de la salle et qui vont battre le pavé l'été venant, travaillent pour proposer des créations dans un contexte qu'ils soient urbains, naturels, paysagers ou justement dans des lieux insolites qui peuvent être des friches industrielles ou des espaces qui ne sont surtout pas dédiés aux représentations théâtrales. Et c'est des artistes qui mélangent toutes les disciplines, comme vous l'avez dit, hein, le théâtre, la danse, le cirque, la musique, la performance ou les arts visuels. Et on a une très grande diversité de créations. Et ce qui est de plus en plus intéressant, en tout cas dans le théâtre de rue, c'est vraiment le rapport à cet espace public, hein, cet espace commun, quotidien, qu'on traverse tous, et ce lien que les artistes entretiennent avec les gens. Et ce contexte humain très singulier du théâtre de rue en fait vraiment sa richesse. C'est là où on voit qu'à la fois la culture et la création artistique sont un endroit vraiment très présent, en tout cas dans nos sociétés. Mais la citoyenneté fait aussi partie, en tout cas, de notre univers. Et le théâtre de rue est là pour essayer de mettre du lien entre toutes ces préoccupations sociales et politiques.
Et c'est un secteur en plein développement, puisqu'on vous aviez commencé dans les années 80 avec une dizaine de compagnies. Et aujourd'hui, je le disais, il y en a 600 qui vont venir, même s'il y en a 20 qui ont droit aux honneurs du festival qualifié de IN, même si ce n'est pas vraiment ça le concept. À quoi ça peut ressembler le théâtre de rue? Je vous propose d'écouter ce petit extrait.
Il avait un petit blouson, là, à la mode, et il mettait toujours la musique sur le jukebox. Ah, ça, il était fou de musique. Et moi, j'étais serveuse au bar. Voilà, puis un jour, il m'a parlé, il venait tous les jours. Puis un jour, il m'a parlé. Et après, il voyait quand je partais, il m'avait attendu dehors. Il m'avait dit, je peux vous raccompagner un peu. Bon, j'ai dit, si vous voulez, jusqu'au métro. J'étais venu jusqu'au métro, et puis voilà. Un beau jour, j'ai craqué, quoi. Ah ben, on était réservés à l'époque. Hein. On était très réservés, c'est réservé. Pas comme maintenant.
Oui.
On s'est embrassés, disons. On. Oh. Oui.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes.
Et voilà, et moi, mon côté, en fait, me saoulait, quoi.
Alors, c'est un court extrait, vous l'avez compris, d'une rencontre amoureuse sur fond musical et d'une histoire d'amour qui va se développer, interprétée par une compagnie originaire du Portugal qui s'appelle Amaré, spectacle qui s'appelle Quissas, qu'on pourra voir entre autres ce soir, demain et après-demain à Aurillac. Ça donne une assez belle image de ce qu'est le théâtre de rue, ce qu'on vient d'entendre, Frédéric Rémy.
Oui, ce qui est vraiment intéressant, c'est comment à la fois on peut être dans la fiction, on peut raconter des histoires et puis on peut s'ancrer complètement dans la réalité. Et cette écriture de la compagnie Amaré est vraiment intéressante puisqu'elle passe à la fois des témoignages voilà, réels et puis après une interprétation à la fois théâtrale et chorégraphique. Et ils ont vraiment une énergie, un dynamisme qui contamine en tout cas tout le public et c'est un grand plaisir en tout cas de pouvoir accueillir aussi des jeunes équipes.
Alors Naïma nous parlera tout à l'heure de l'étonnante compagnie complexe Capharnaüm qui va dans une ville, qui investit un quartier de la ville, qui rencontre les gens et qui ensuite en fait un spectacle, le joue. Il y a une part évidemment, on imagine, d'improvisation et d'interaction très importante avec le public.
C'est ça, c'est comment on œuvre avec la réalité et avec un contexte singulier. Et c'est vrai que Complexe Capharnaüm, hein, qui fait partie de ces équipes de référence, hein, des arts de la rue, qui nous ont accompagnés en tout cas ces dernières années, et ont toujours su, dans leur création, sentir, ressentir l'énergie, la dynamique, l'humeur en tout cas des habitants ici d'un quartier d'Aurillac, et puis en faire un portrait sensible qui puisse être un peu documentaire, mais justement avec tout un travail de mixage, de montage sonore, visuel et de graphisme, et ces grandes projections sur des façades d'immeubles par exemple, ou ces interviews qui sont retranscrites, donnent en tout cas une résonance bien réelle à la création artistique.
Et c'est un festival et une discipline, ce théâtre de rue qui rencontre de plus en plus de succès. Il y aura plus de 100 000 personnes dans les heures qui viennent du côté d'Aurillac. Eh bien, on vous souhaite, Frédéric Rémy, un très beau Festival des arts de la rue, vous l'avez compris, si vous êtes dans le secteur ou si vous avez envie d'être étonné, surpris, d'avoir une vision de notre monde d'aujourd'hui différente de celle qu'on produit ailleurs, eh bien allez à Aurillac, dans le Cantal. Bon festival, Frédéric Rémy.
Merci beaucoup.
Et Johanna, on va rester du côté d'Aurillac avec la chronique de Naïma Benchelan, comme tous les soirs, va nous parler de complexe Capharnaüm. Restez bien à l'écoute, c'est étonnant. Mm-hmm. Étonnant.
Et c'est la suite de votre rendez-vous festival.
Ambiance scandale, danse de vandale, sans d'où vient la chaleur. DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox.
Oui, Johanna, on va rester du côté d'Aurillac pour cette magnifique grande fête de la rue pendant 3 jours. Et on va entrer au cœur d'une de ces compagnies du théâtre de rue pour mieux le vivre, mieux le comprendre. Bonsoir Naïma Benchelan.
Bonsoir François Claus.
Vous avez découvert et vous avez été séduit par l'une de ces 20 compagnies invitées cette année à Aurillac, Complexe avec un K, un X, Capharnaüm avec un K. Vous avez rencontré l'un des cofondateurs de cette compagnie, Pierre Dufaureau.
Pour moi, Planois, c'est le quartier, c'est le début où tout a commencé.
C'est un quartier où tout le monde se connaît, où il y a une bonne ambiance parfois.
C'est un quartier où on manque de rien dedans, je pense.
Pour moi, c'est une vie paisible et je m'y plais.
C'est mon quartier.
Voilà.
La compagnie Complexe Capharnaüm, ce sont des plasticiens, des vidéastes, des écrivains et des musiciens. Un joyeux pot-pourri unique en son genre. Depuis 1995, la compagnie, implantée à Villeurbanne, propose des interventions dont la ville constitue la trame. Car la ville, c'est leur matière première, ou plutôt leur matériau premier.
Pour moi, mon Planois, c'est l'endroit idéal. Bon, ça peut surprendre, mais en tout cas, ça, c'est mon ressenti.
Complexe Capharnaüm invente sur ses territoires des modes de rencontre entre artistes et habitants, des manières de produire des œuvres autrement, des processus d'intervention urbaine connectés aux problématiques contemporaines.
À la différence de pas mal de compagnies où il n'y a personne qui vient vraiment du spectacle, il n'y a pas de gens qui sortent des conservatoires, des choses comme ça. C'est un mélange entre des ingénieurs, des plasticiens, voilà, des autodidactes. Et c'est ce qui fait un peu la particularité de notre travail, effectivement. Et aussi, la grande spécificité de Complexe, c'est qu'on construit avec des matières qu'on trouve localement. Donc le travail qu'on mène depuis 20 ans, c'est celui-ci, c'est d'aller rencontrer des gens et de construire des spectacles avec les matières issues de ces rencontres.
Moi, j'ai connu Planoise, c'était nickel.
Dangereux.
Planoise a un peu changé, ça s'est un peu dégradé.
Ouverte.
C'est un quartier qui est bien, qui est vivant. Voilà. Après, il faut connaître. On ne juge pas un quartier sans connaître. Quoi.
Pour moi, Planoise, c'est le meilleur quartier.
C'est un quartier qui est vert. Je suis super content d'habiter là. Quoi. C'est un chouette quartier, c'est animé. C'est très cosmopolite. Quoi.
Et cela fait 20 ans, Naïma, que Complexe Capharnaüm existe. Et pour le festival d'Aurillac, eh bien, ils ont créé un tout nouveau spectacle de rue intitulé Hide and Seek, qu'on pourrait traduire finalement par cache-cache.
Pour ce spectacle, ils ont dressé le portrait de Planoise, un quartier de Besançon.
Pour moi, Planoise, c'est le Bronx.
Planoise, c'est bon.
Pour moi, Planoise, c'est... Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut répondre ?
C'est un quartier très touchant, parce qu'il y a beaucoup de familles.
C'est pas, on entend souvent « Oh, Planoise, c'est un quartier chaud, je sais pas quoi. »
Quelques jours avant leur représentation, cette bande de joyeux trublions se transforme en sorte de Tintin reporter et ils vont parler à toutes sortes de personnes, dans les PMU, dans les pharmacies du coin, à la boulangerie, dans les commerces, pour glaner des clichés de vie.
En fonction des endroits qu'on découvre et du type un peu de quartier dans lesquels on est, bah c'est pas du tout les mêmes relations qui seraient entre les personnes. Et on essaye un peu comme ça d'explorer qu'est-ce que c'est un réseau social avec ce jeu de mots sur effectivement ces réseaux sociaux qu'on pratique via le numérique. Mais qu'en est-il d'un réseau social in situ à même le à même le goudron et comment on crée de la relation entre les habitants dans un quartier.
Je voudrais dire que oui, on se fait beaucoup d'amis. Et voilà, encore une fois, il y a beaucoup de solidarité et c'est quelque chose de bien dans ce quartier-là.
La compagnie Capharnaüm capture le réel pour le sublimer en instantané artistique. Ce sont des explorateurs du lien social.
On l'a compris, leur envie, c'est de porter un regard totalement nouveau sur nos villes. Alors leur terrain de prédilection, ce sont les quartiers en marge. Leur envie n'est pas de faire des portraits réalistes des villes, mais finalement de faire des portraits différents, des portraits en toute subjectivité, bien sûr, qui sont fabriqués à partir de ces rencontres qu'ils font dans ces endroits particuliers où ils vont.
Je voudrais dire aux vieux de sortir un peu plus dehors, de profiter de la vie.
La compagnie Complexe Capharnaüm donne la parole à celles et ceux qui sont des silencieux, celles et ceux qui ne sont pas écoutés ou entendus. Elle est leur porte-voix. Grâce à ces artistes, les infirmiers, les instits, les commerçants, les cuidames, qui face aux affolements médiatiques, aux idéologies déboussolées, aux problématiques contemporaines étaient les grands oubliés de la société, et bien grâce à ces artistes de rue, ils reprennent vie dans l'espace public. Grâce à leur création spectaculaire de rue, la compagnie Complexe Capharnaüm, loin des clichés, parvient à faire surgir des petits bouts d'humanité.
Que Plano, ça devienne une ville. Une ville très grande avec de l'amour et de la paix.
La compagnie Complexe Capharnaüm, Naïma, est à découvrir au Festival d'Aurillac dès ce soir. Et ce sera pour 3 jours d'affilée. Vous l'avez compris, ce sera un des grands moments du festival. Merci beaucoup Naïma Bencheman.
Merci François Clos.
À demain.
À demain.
Ambiance scandale, danse de vandale, sans d'où vient la chaleur. DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Ambiance scandale, danse de vandale, sans d'où vient la chaleur. DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox.
Et oui, il fallait rendre hommage à la rue avec la Funky Family, forcément. Après ce festival d'Aurillac, les mots de la rue jusqu'aux mots des pages, dans un instant.
Pour un écrivain, il y a 2 choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
C'est dangereux, un auteur qui parle de lui-même dans un livre.
Europe 1.
Un jour d'été, un livre.
Quand vous le lisez et que ça me paraît bien, je me dis que ça doit être vraiment bien.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir François.
Et avec vous, alors que nous balisons cette bibliothèque que nous constituons tout l'été, tous les mercredis, nous nous arrêtons sur un livre audio. Et là, on va revenir un peu à nos chroniques habituelles du lundi parce qu'il s'agit d'un livre culte.
C'est les deux. Ça s'appelle « Le guide du voyageur galactique ». Il a été édité en format audio chez Écoutez Lire il y a quelques semaines seulement. « Le guide du voyageur galactique », au départ, c'est un feuilleton radio diffusé en 78. À partir de 79, c'est devenu un roman du même auteur, Douglas Adams. C'est de l'humour britannique à la Monty Python, si vous voulez. Il y a 5 tomes. Écoutez juste les titres. Tome 1, c'est donc le guide du voyageur galactique. Le tome 2, dernier restaurant avant la fin du monde. Ensuite, la vie, l'univers et le reste. Le tome 4, salut et encore merci pour le poisson. Et le 5e et dernier, globalement inoffensive.
Alors on voit effectivement l'humour qui pointe derrière ces appellations, mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Qu'est-ce que ça raconte derrière?
C'est l'histoire d'Arthur Dent, un jeune anglais un peu mollasse. Il vit à la campagne, dans une petite maison. Quand on le rencontre au début de l'histoire, il est très embêté parce que des bulldozers sont devant chez lui. Ils doivent raser sa maison, mais au même moment, son meilleur ami vient le chercher. Il y a urgence. Il lui dit de lever le pouce en l'air et les deux amis sont pris en stop par un vaisseau spatial. Il était temps puisque la Terre est détruite quelques minutes plus tard et le meilleur ami d'Arthur lui avoue qu'il n'est pas terrien, mais qu'il travaille pour le guide du voyageur galactique, une sorte de guide du routard, mais à l'échelle de l'univers. Et on suit les deux voyageurs dans leur pérégrination. C'est complètement dingue, déjanté et très très drôle. Voici le début lu par Nicolas Justamon.
Tout là-bas, au fin fond des tréfonds inexplorés et malfamés du bout du bras occidental de la galaxie, traîne un petit soleil jaunâtre et minable. En orbite autour de celui-ci, à la distance approximative de 150 millions de kilomètres, se trouve une petite planète bleu-vert et totalement négligeable, dont les habitants, descendus du singe, sont primitifs, au point de croire encore que les montres à quartz numériques sont une vacheté de chouette idée.
Une vacheté de chouette idée, entre guillemets. Il y avait eu un film, Nicolas.
Oui, avec Bill Nighy, vous savez, le rocker un peu ringard de Love Actually. C'est un livre qui lui va très bien, So British. Pour ceux qui aiment le nonsense et l'humour absurde, c'est fait pour vous.
Et ça s'appelle donc Le Guide du Voyageur Galactique, à lire, ou vous l'avez compris, peut-être surtout à écouter. Merci Nicolas Caro.
Merci François.
Europe 1. Et dernière étape de notre 19-20, la chronique héros du jour.
Ce sera une héroïne aujourd'hui, elle s'appelle Pérec, Marie-Josée. Certains s'en souviennent, le virage historique Atlanta, 1er août 96, Jean-Claude Perrin et Marc Fréjean, dans un instant.
Héros d'un jour.
Incroyable performance.
Jean-Claude Perrin.
Nous sommes le 1er août 1996 à Atlanta. Ce sont les Jeux du Centenaire. C'est le 6 avril 1896, à Athènes, que l'aventure olympique a été lancée. Avec cette arrivée aux États-Unis, c'est 10 000 athlètes, chiffre record pour les accréditations des journalistes. Droit de télévision en nette progression. Augmentation de la diffusion mondiale, avec des audiences importantes en Afrique et en Asie. Nouvelle terre à conquérir. Marie-Josée Pérec est le porte-drapeau de la délégation française. C'est avec une joie immense et une grande fierté qu'elle a accepté cet honneur. À Atlanta, après avoir gagné à Barcelone une médaille d'or sur 400, elle est au sommet de son art. Marie-Jo a 28 ans. Sa progression n'a pas toujours été simple. Elle la doit essentiellement à Jacques Piacenta, un entraîneur qui, avec patience, compétence et surtout fermeté, l'a conduite au titre du 400 à Barcelone. Elle quitte Paris pour la Californie, au loin de l'agitation parisienne. Elle trouve en terre américaine la sérénité ainsi que des conditions d'entraînement parfaites, surtout sur le plan climatique. En conservant son titre, acquis sur 400, j'apprends par des observations de différentes séances qu'elle va tenter un pari fou, c'est-à-dire avec pratiquement pas de récupération, enchaîner 400 et 200, ce qui n'a jamais été tenté. Mais surtout, c'est un défi, car il va falloir faire 8 courses en 7 journées. Si elle a parfaitement dominé en raison de son exceptionnelle résistance, plus orientée vers 400-800, il lui faudra cette fois sur 200 mètres battre les véritables spécialistes de la vitesse. Sur 200 mètres, ses adversaires sont plus rapides qu'elle, notamment la Jamaïcaine Merlène Otey, qu'elle redoute en priorité. Je suis dans la tribune de presse, pratiquement à la verticale de la ligne d'arrivée. Il est 19h35 quand elle se met dans les starting blocks au couloir numéro 3. Une température idéale, 27 degrés, pas de vent. C'est un match que nous attendons tous avec confiance mais anxiété. Nous avons d'un côté les spécialistes de la vitesse et de l'autre, une fille hyper combative et résistante.
C'est parti, mise en action sublime de Otey avec Marie-Josée Pérec qui maintenant déjà fait l'effort. C'est entre ces deux jeunes filles avec Guidry que la bagarre va se jouer.
Les filles de la vitesse essayent de l'impressionner et partent comme des boulets de canon très vite. Otey en tête.
Dans le virage maintenant, Marie-Josée Pérec qui sort sur la même ligne que Otey. Elle reste sur sa gauche, Guidry qui fait l'effort.
Marie-Jo est détachée, elle est cinquième à la sortie du virage. Il reste 80 mètres. Otey passe en 11-28 pour le premier 100 mètres. Alors, sans se crisper, de sa longue et belle foulée, entre deux appuis, elle a 2,80 m, son accélération est constante. Bien que distancée, Marie-Jo ne panique pas. Elle est légère, aérienne. Son immense talent naturel irradie la piste. C'est l'instant de vérité. C'est magique. C'est d'une grande pureté technique.
Perret accélère et elle va prendre ses pédales d'or peut-être de hauteur. Ôtez Perret.
Il reste 2 mètres. C'est le bon moment pour agir. Ses adversaires ne réagissent pas. Et pétrifiée, la voit se détacher et franchir la ligne. Ce sera sa 3e médaille d'or.
Perret, champion olympique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, elle est championne olympique. 22 secondes 13. Perret, champion olympique du 200 devant Merlet Nautet et peut-être Guidry. Perret se prend la tête dans les mains. Elle l'a fait. Elle est championne olympique du 200 en 22 secondes. 13 centièmes. Elle ferme les yeux maintenant. Marie-Josée Perret devant Autet. Les deux jeunes filles s'embrassent. Perret, vainqueur du 200 mètres dans le temps de 22, 13 centièmes. C'est sublime.
Et ses premiers mots sont simples. Je n'ai jamais eu peur.
Je crois que je suis sur un nuage et que, en fait, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne pensais pas faire ça ce soir. C'est vrai que j'ai compté sur mon finish. Je sais que je suis très forte vers la fin. Et c'est vrai qu'au départ, j'étais loin derrière. Je n'ai pas eu peur. J'ai attendu le bon moment et en fait, ça a marché.
Elle n'a jamais eu peur et elle me dira plus tard, je me sens toujours très forte. En fin de course, elle a ouvert, par cet exploit, les portes de sa légende.
La légende Perret avec la légende Perrin, ça fonctionne bien. Et l'inspiration musicale, toujours très pertinente, de Marc Fréjean. On termine avec ce beau moment et on se retrouve évidemment demain, Johanna.
À demain, François.
C'est plaisir de partager avec vous, chers auditeurs, ces 2 heures d'information. En remerciant toute l'équipe du 18-20, c'est un travail d'équipe, hein, Pierre-Louis Mauger qui vous accueille au standard tous les soirs, avec Cyril Pascal et ses doigts de fée, et avec les indispensables Naïma Benchemann et Manuel Calma, à qui on souhaite, avec un petit jour de retard, un très très bel anniversaire, Manuel. À demain.